Une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonjour à tous, bienvenue à la Photomédia en direct sur les ondes de choc.ca. Vous allez voir au son de ma voix que j'ai un petit rhume. Je m'en excuse, c'est la saison. Cette semaine à l'émission, nous allons aborder des sujets durs mais essentiels, soit ceux de la culture du viol, de l'évolution du féminisme et du féminisme noir. Donc nos chroniqueuses Tessie Jean-Paul ainsi que Camila Rodriguez-Ca et notre chroniqueur Alex Bachalani sont présents pour nous en parler. Bonsoir à toutes.
Salut. Hello.
Donc nous avons aussi autour de la table Myriam Bernet ainsi que Sarah Thibault qui sont là pour nous épauler dans l'émission. Et par ailleurs, nous avons également parmi nous une invitée spéciale, Judith Lucier, qui est auteure, journaliste, chroniqueuse et co-vedette de la web-série de Télé-Québec Les Brutes. Judith Lucier, bienvenue à l'émission.
Merci de m'avoir invitée.
Donc, c'est un sujet qui fait les manchettes dernièrement, celui de la culture du viol, que ce soit avec l'histoire des agressions sexuelles dans les résidences de l'Université Laval à Québec, qui ont fait grand bruit, ou encore les révélations d'une victime du député Jerry Sklavounos, qui ont mis à mal le travail des policiers en la matière. On a beaucoup entendu parler de ces termes, la culture du viol. Mais c'est quoi exactement cette culture du viol? Selon sa plus simple expression, c'est le fait que le viol et les violences sexuelles sont liés à la culture de la société et que de ce fait, on a tendance à les tolérer, les excuser ou même à les approuver. La culture du viol, c'est banaliser les violences sexuelles, c'est culpabiliser les victimes, c'est l'inaction des institutions et c'est la protection des agresseurs. Elle est bien réelle et on en a beaucoup parlé récemment dans les médias. C'est justement ce dont Camila et notre invité vont s'entretenir.
Oui, alors Judith, toi, comme journaliste et co-animatrice de l'émission Les Brutes, tu as participé à la discussion publique sur ce sujet-là. Puis une de tes interventions qui a attiré mon attention, c'est celle concernant l'habitude de plusieurs journaux de parler de culture du viol avec l'expression « entre guillemets ». Donc, même quand les articles ne remettent pas nécessairement en question cette culture-là, ils la mettent entre guillemets. On peut comprendre que les journalistes le font par souci d'objectivité, mais toi, tu t'es demandé, justement, si cette recherche de l'objectivité révélait pas quelque chose de plus insidieux, c'est ça?
Effectivement, c'est tout à fait bien résumé. En fait, quand on utilise des guillemets en journalisme, normalement, c'est parce qu'on prend une certaine distance avec un propos. On dit, ah, c'est pas moi qui dis ça, c'est telle personne, ou ça, nous, on pense pas ça, ou ça peut vouloir dire toutes sortes de choses, il faut être prudent. Mais dans ce cas-là, j'ai eu l'impression que c'était une prudence qui était peut-être exagérée ou c'est une prudence de trop, alors qu'on a des, premièrement, le gouvernement qui admet qu'il y a une culture du viol, mm-hmm. qu'il y a eu une motion à l'Assemblée nationale, des médias sérieux comme Radio-Canada utilisent le concept culture du viol en prenant pour acquis que c'est une chose, une réalité qui existe. Ouais. Puis moi, ça m'a mis mal à l'aise personnellement de voir certains de mes collègues utiliser cette expression entre guillemets. Puis c'est un détail, mais qui en est pas un dans les médias. Alors que les médias sont au cœur de cette culture du viol-là. Par ouais. exemple, quand on disait bon, on va prendre la défense des accusés ou on va un peu salir les victimes, les victimes vont avoir honte. Ben dans les médias, ça va se manifester. Par exemple, quand on va dire le député Sklavounos est dans la tourmente. Ouais. Bon, c'est une prise de position, ça. On est en train de dire, pauvre lui, il fait pitié. Mm-hmm. Alors que, ben, un instant, est-ce qu'il fait pitié? Est-ce qu'il a couru après?
Ouais.
Bon, On va sortir des détails sur la victime. Bon, on va dire elle était prostituée. Bon, premièrement, on sait que ça, c'est un argument qui est même pas valide en cours. Je remonte un peu plus loin. Cet été, il y avait l'affaire Brock Turner. C'est un étudiant de Stanford qui a été accusé et même condamné très peu, par exemple, mais qui a été condamné pour l'agression sexuelle d'une jeune fille sur un campus. Et la photo qu'on utilisait pour le présenter dans les journaux, c'était pas sa photo de la police, le fameux mugshot qu'on va utiliser quand la personne est noire. Ça, souvent, on va utiliser les photos de la police, mais lui, c'était sa photo de compétiteur de natation, et on disait, le titre, les titres dans les journaux ou les mentions qu'on faisait, c'était, bon, ce champion de natation a été accusé d'agression sexuelle. C'est comme, on met l'accent sur ses réussites, tout le temps en disant, ben, est-ce qu'on est en train de gâcher la vie de quelqu'un en l'accusant ainsi d'agression sexuelle?
Non? Avec très peu de considération pour la vie gâchée, ou en tout cas une partie de sa vie de la victime.
Exactement.
De l'agression sexuelle. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses de ce principe-là d'objectivité journalistique? Est-ce que les journalistes devraient prétendre à cette objectivité-là en tout temps?
En fait, c'est embêtant parce que quand on étudie en journalisme ou quand on obtient notre fameuse carte, la FPJQ, qui sert pas à grand-chose en passant, c'est comme on nous inculque cette valeur-là de la neutralité journalistique comme un principe sacré. Et je trouve qu'il faut faire attention parce que, premièrement, bon, la neutralité, l'objectivité, ça ne s'atteint pas, là, en journalisme. Le fait de choisir un sujet, c'est déjà de choisir un angle, c'est déjà de porter un éclairage sur quelque chose qui nous apparaît important. Donc, c'est déjà un biais. Et moi, ma théorie, c'est plus on se rapproche de la pensée dominante, de ce qui nous apparaît comme étant normal ou ce qui est convenu en société, plus on a l'impression d'être neutre parce que notre pensée choque pas, nos écrits choqueront pas, alors qu'en fait, ce qu'on peut être en train de faire, c'est militer pour un statu quo qui est pas nécessairement la chose la plus optimale pour tous dans la société.
Oui.
Donc, quand il va être question d'égalité homme-femme, quand il va être question de racisme systémique, quand il va être question de plein de choses qu'on prend qui nous apparaissent normales en société, qu'on remet pas en question.
Oui.
Les journalistes, je trouve que souvent, ils vont avoir de la difficulté à avoir un regard critique ou, en fait, parce que poser un regard critique pour plusieurs de mes collègues, c'est militer. Puis journalisme et militantisme font pas bon ménage. On se fait. C'est deux choses qui ne devraient pas aller ensemble selon les en tout cas, selon la plupart de mes collègues,
ouais,
dans les salles d'information. Donc, ça crée des malaises et voilà.
Ouais, je comprends. Mais toi, t'es journaliste, donc, mais t'as aussi une émission, une web-série, Les Brutes,
produite par... Où on prend position.
Télé-Québec, ouais. Oui, en effet. Puis, à ce sujet-là, je voudrais parler avec toi de la représentation des femmes dans les médias. Mm-hmm. Parce qu'on en a aussi beaucoup parlé dernièrement, avec la plus grosse nouvelle des dernières semaines, l'artiste Sophia Nolin qui met un t-shirt au gala de la disque.
Que je porte en ce moment, les gens à la radio peuvent pas voir, mais
cool,
je porte un chandail de Safia Nolin qui porte un chandail de Jerry Bless.
On prend ça en photo puis on met ça sur les réseaux sociaux.
Avec plaisir.
Donc, les critiques ont été virulentes. On lui a reproché de mal s'habiller, de mal parler. La liste est longue et elle reflète un fait assez évident, c'est que les médias exigent que les femmes se conforment à un idéal de beauté et à un modus operandi d'une certaine classe sociale. Parce que la manière dont on s'habille puis dont on parle, c'est assez révélateur par rapport à notre milieu de vie aussi.
Mm-hmm.
Puis j'ai dit tout à l'heure que c'était un non-sujet, ce qui a montré humble avis. On devrait pas utiliser l'espace médiatique pour parler. On devrait plutôt utiliser l'espace médiatique pour parler de vrais scandales ou enjeux, mais ça ne veut pas dire que la prise de position de Sophia Nolin n'est pas importante en soi. C'est-à-dire, une femme devrait pouvoir s'habiller comme elle veut sans risquer d'être critiquée comme elle l'a fait. Puis, toi, tu décris souvent dans tes prises de position dans la sphère publique la façon dont peuvent être traitées les femmes dans les médias, puis grâce à ta tribune, tu deviens, toi aussi, une femme dans les médias. Donc, comment est-ce que tu gères cette dynamique-là, toi?
Bien, dans le sens que tu trouves que je suis beaucoup critiquée, beaucoup malmenée par... Effectivement, des fois, quand j'ai des tantes ou des cousins-cousines qui adhèrent à ma page Facebook, j'ai comme le goût de les avertir, là. Fais attention, tu sais, je veux dire, inquiète-toi pas, je le prends pas tout personnel, les critiques qui me sont adressées sur ma page Facebook, parce que ça peut être assez agressif. Puis mes collègues masculins me font souvent la réflexion, moi aussi j'en ai des critiques, mais jamais aussi personnelles ou jamais. En fait, je pense qu'en quantité de critiques, ça peut se ressembler, mais il y a l'agressivité puis la violence est peut-être différente sur ma page. Il y a beaucoup, évidemment, de paternalisme. En plus, j'ai l'air jeune. Je suis pas juste une femme, j'ai l'air jeune.
Ouais.
Donc, souvent, les gens s'autorisent à me parler comme si j'avais 15 ans et à m'expliquer la vie, ainsi de suite. Moi, faut que ça me passe. L'idéal, faut que ça me passe par-dessus la tête. Puis, ce que je réalise, par contre, de plus en plus, c'est que ça empêche les gens d'avoir une discussion saine sur mon mur Facebook ou dans les réseaux sociaux ou dans les commentaires à la suite de mes articles parce que ils ont peur de cette agressivité là. Donc moi je fais avec, on dirait que je suis un peu je fais avec, je vis avec.
Pas le choix. Ouais. Puis parce que dans le fond, toi, tu fais pas juste, t'es pas juste, disons, une femme, une jeune femme dans les médias, c'est aussi les sujets que tu traites qui amènent cette agressivité-là, j'ai l'impression. Puis nécessairement, quand on est une femme qui dénonce le féminisme, je trouve que des fois, on peut avoir une réponse du genre, t'as un biais nécessairement, tu vas dénoncer le féminisme, t'es une femme, tu peux pas avoir ton regard sur la société peut pas être pertinent ou véridique ou...
Ben, premièrement, j'aimerais juste préciser, je dénonce pas le féminisme, mais plutôt je dénonce le masculinisme ou je dénonce le patriarcat.
J'ai dit ça.
J'imagine que c'était un lapsus.
Un lapsus.
Mais pour les gens, mettons, qui me connaîtraient pas, puis qui se disent « Ah ouais, elle, c'est contre le féminisme, arc! » Non, je suis pas ça. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est que pour plusieurs personnes, je deviens militante, donc ça atteint ma crédibilité, mais ça a toujours été le cas. Les féministes, parce que, par définition, ça remet en question le statu quo. Je veux dire, ça dérange et donc on va dire qu'elles sont biaisées parce qu'évidemment on est des femmes donc on n'est pas capable d'objectivité sur notre propre condition.
Puis on a trop d'émotions surtout.
Oui, c'est ça. En plus, il y a toutes ces facultés-là de rationalité qu'on n'aurait pas. Autant que les hommes sur leurs propres conditions et sur la condition humaine en général, parce que les hommes, ça, c'est pas remis en question vraiment leurs compétences là-dessus. C'est ça. Mais ça a toujours été le cas quand des femmes militaient pour l'avortement ou pour le droit de vote, on prenait ça pour on pensait qu'elles étaient biaisées. On disait qu'elles étaient biaisées. Aujourd'hui, une femme qui se battrait contre le droit de vote des femmes serait considéré comme étant folle ou biaisée ou en tout cas. Donc tu sais les temps changent, les mœurs changent, puis moi j'ose espérer, puis là évidemment mes détracteurs seront pas d'accord, mais j'ose espérer que je tends vers le progrès, en fait, vers l'avenir. J'ai l'impression que dans 30 ans les revendications qu'on fait maintenant vont être ça va nous paraître banal tellement c'est acquis, donc je souhaite.
Puis un des autres sujets dont tu parles beaucoup, c'est le racisme en général. Je pense que vous avez produit, toi et Lily Boisvert, beaucoup de contenu à ce sujet-là, mais donc toi, t'es une fille blanche qui parle de privilèges raciaux. Comment est-ce que t'en es venue là à cette prise de conscience-là de privilèges, mais aussi comment est-ce que tu gères, disons, où est-ce que tu vas chercher ta légitimité, parce que t'en parles beaucoup, t'en parles bien, mais tu sais.
C'est une excellente question, puis en fait, avec les brutes, ce qu'on s'est dit, c'est à chaque fois qu'on parle de ça, c'est pas nous qui en parlons. Donc, quand on a parlé d'appropriation culturelle, on a fait venir du monde à notre émission. Quand on a parlé de l'islamophobie, on a fait venir Dalila Awada, puis on a fait un exercice de renverser les rôles. Donc, je pense que moi, j'ai vraiment pas toujours été une bonne alliée. En fait, j'ai été très maladroite par rapport aux enjeux raciaux dans le passé. J'ai déjà pris la défense du blackface. On m'a parlé dans le casque. On m'a éduquée. Puis après ça, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait mes recherches. Je me suis demandé comment je pouvais être une alliée. Puis la réponse En fait, la réponse que moi je donne aux gars sur comment être des alliés féministes, c'est la réponse que je me suis fait donner par des personnes racisées. Si tu veux être une alliée, donne-nous la parole. Puis même dans mes chroniques aussi, à chaque fois que je parle d'enjeux raciaux, ça arrivait que des fois que j'avais pas le temps, mais la plupart du temps, je vais interviewer des gens pour faire passer leur point de vue plutôt que moi white-splainer un peu la situation. Ouais. Donc, je pense qu'on peut tous faire cet exercice-là d'introspection sur... Puis je pense que ça vient avec le fait que moi, des fois, il y a des hommes bien intentionnés qui vont m'expliquer le féminisme. Puis je me dis, ben, ouais, mais c'est pas tellement... Tu sais, c'est plus compliqué que ça. c'est pas mon point de vue. Ou es-tu en train de faire ça pour te penser bon d'être un bon gars? Ou, tu sais... Puis moi, je fais ça avec les enjeux raciaux. Fait que je me vois aller. Fait que j'essaie d'être sensible à ça aussi. C'est ça. Mais on en fait des erreurs, puis on se fait...
Question d'être, dans le fond, conscient de soi, exact, de son entourage.
Juste faire l'exercice d'être toujours conscient de ses privilèges, de les re-questionner tout le temps. Puis, tu sais, c'est pas un concours de « moi, je suis moins privilégiée, je fais plus pitié ». C'est pas ça, c'est plus... Ben, qu'est-ce qu'on fait? On a des privilèges. On va pas les en perdre ou en gagner, ou ça se peut qu'on en perde ou on en gagne, mais comment on peut faire profiter de ces privilèges-là à d'autres personnes? Puis dans d'autres situations, je suis moins privilégiée, mais je dirais que dans la majorité des situations, je suis assez privilégiée, puis je suis pas honteuse de ça. Mais ça fait réfléchir, en fait.
Ouais. Bon, mais merci beaucoup. On t'invite à rester avec nous pour le reste de l'émission. On se retrouve après la pause. Là, je vais vous laisser avec Sorry Eyes d'Alyosha. Show me how blooming you are now. Please give me some news from paradise. Show me how free you're feeling now. I guess that I was just a parasite. But there's something weird about your smile. Looks like your eyes are paralyzed. If you wanna make me buy the ear so glad, you better have a lot of spare. And I've been trying not to hate you, but God, it's getting hard not to. So watch that look up from your face. It really makes you lose all of your grace. You won't make me cry with your sorry eyes. You won't make me cry with your sorry eyes. You won't make me cry. Sorry eyes, you won't make me cry with your sorry eyes.
Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca, l'émission La Photomédia en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Pour ceux qui l'auraient manqué en première partie, l'entrevue avec Judith Lucier, vous pourrez la reprendre sur Internet. Nous allons publier l'émission comme toujours. Donc maintenant, notre première chronique avec Tessie Jean-Paul. Donc Tessie, ce dont on ne parle pas dans les médias, le féminisme a pas la même définition pour tous.
Non, effectivement, je voulais en parler justement parce que bon, c'était dans le contexte de l'émission justement, parlons des femmes, mais parlons-en large. Donc aujourd'hui, c'était juste une espèce de retour que je veux commencer à faire. Le statut de la femme noire dans les médias, comment on représente les gens, comment qu'on représente les femmes noires, tout le monde n'a pas les mêmes enjeux. Je voulais venir un bref regard sur l'identité de la femme noire d'abord. Moi, j'ai vécu ça beaucoup. Je suis une femme noire, les gens ne le voient pas, mais bon, c'est ça. Mais je l'ai beaucoup vécu, beaucoup de gens l'ont vécu aussi. Beaucoup de femmes noires utilisent des produits hyper toxiques, autant pour la peau, pour les cheveux. Pourquoi? Pour ressembler à un critère de beauté plus occidental. C'est une espèce de difficulté de s'identifier déjà d'abord à la culture dominante, puis des problèmes d'acceptation et de rejet des racines qui a été fait. Oui, c'est un processus qui a été très lourd là durant le moment de la colonisation, qui est encore très présent aujourd'hui, qu'on s'en rend pas nécessairement compte. Puis quand j'observe la scène politique, la scène musicale, les gens sur la scène publique, on observe que beaucoup de personnes ont laissé leur pratique ou même leur identité de côté, telles que des femmes influentes, souvent sans leurs cheveux naturels, telles que Michelle Obama. C'est vraiment cool, la première femme noire à la Maison Blanche, mais on s'entend très bien que c'est pas la texture de ses cheveux naturels. Et la même chose pour ses filles, la même chose pour Kerry Washington. Encore là, le naturel est pas là. Puis en plus avec son rôle dans la série Scandals, qui est scandaleux, je veux dire, un peu comme ça, qui est pas la cause de la femme noire, malgré que c'est un des plus grands rôles donnés à une femme noire depuis très très longtemps. Reste que son statut est pas super, là, comment que la femme noire est représentée. Puis par la suite, plus positivement, la seule personne que j'ai suivie pendant longtemps et qui s'est toujours affirmée, c'est Solange Knowles, qui est en fait la sœur de Beyoncé. Elle s'est mariée les cheveux naturels et ça a fait un espèce de tollé. Ah, comment ça? Pourquoi? Parce que c'est pas un critère de beauté. Normalement, faudrait-tu te marier les cheveux lisses? Mais elle a décidé de se marier avec ses cheveux crépus, naturels, et elle était hyper jolie. Donc, un refus d'identité, un refus de pouvoir retour à ses propres racines avec des produits totalement toxiques. Moi, je dis fait en fait un combinaison entre comment l'ethnicité atteint la définition du féminisme. J'ai pris mes réflexions un peu d'une sociologue qui s'appelle Danielle Juteau. Les paramètres du féministe est différent pour tous. Ici, le féministe noir se trouve en arrière. Qu'est-ce que je veux dire par en arrière? C'est que les femmes ont déjà la difficulté à s'accepter, ont déjà la difficulté à se faire reconnaître et ne fitent pas dans les standards de beauté. Donc, c'est un repli identitaire. Donc, les gens, ils veulent même pas être capables de s'affirmer. Donc, l'histoire engendre des différences au niveau identitaire. Donc, forcément, le combat n'est pas les mêmes. Donc, tout le monde a des parcours différents, une histoire différente, une différence dans la définition du féminisme est causée notamment par l'ethnicité et par les rapports coloniaux. Puis malheureusement, à cause de ces rapports-là, le féminisme pour les femmes noires vient au deuxième plan. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la femme noire doit d'abord se battre pour ses droits humains et par la suite vient le combat féministe. Donc, il est donc faux de penser que le combat féministe est le même pour toutes, dans le sens que le combat féministe a des frontières différentes pour tous et on n'a pas les mêmes ennemis. C'est faux de penser que la féministe blanche et la féministe non blanche a les mêmes ennemis. C'est pas juste les hommes contre qui il faut, c'est pas eux autres les frontières, il en a beaucoup d'autres. Et surtout, quand on est une femme racisée, c'est encore plus difficile parce que le combat féministe, il vient en deuxième ou même en troisième plan.
Parce qu'un des problèmes qu'il y a dans le féminisme blanc, on pourrait dire, c'est que souvent on parle de féminisme at large, c'est comme si ça représentait toutes les femmes, mais en fait, on parle de la condition des femmes blanches de classe moyenne. Mm-hmm. Et c'est vraiment extrêmement raciste, dans le fond, que de penser que la condition de la femme blanche est celle de toutes
Femmes. C'est universel.
Mm-hmm. Oui, exact. C'est un peu comme dire l'histoire de l'homme en parlant de l'homme avec un grand H pour parler de toute l'humanité, en fait. Mm-hmm.
Mais dans, si on revient à, au sujet de la culture du viol, là, c'est un sujet où on voit que ces enjeux-là sont imbriqués et peuvent entrer en, en conflit. Par exemple, quand on dit qu'une femme sur trois est victime d'agression sexuelle, c'est qui cette femme-là? C'est une, on se fait l'idée, moi peut-être par biais parce que je suis une femme blanche, je me fais une idée d'une femme blanche, mais c'est majoritairement des femmes autochtones, des femmes noires, des femmes hispaniques, des femmes handicapées, des femmes... Oui. Donc, c'est les femmes les moins privilégiées. Puis, en fin de semaine, il y avait un, il y a un homme qui s'est fait arrêter pour agression sexuelle dans la rue sur le plateau Mont-Royal. Les médias, qu'est-ce qu'ils ont retransmis? C'est un homme autochtone. À Laval, on a dit que c'était des hommes... je pense que c'était des Africains. Donc, pourquoi on donne la nationalité des agresseurs quand ça fait... C'est comme quand ça fait l'affaire. C'est, moi, ça me, je trouve ça très dérangeant, tout ça.
Oui, c'est super dérangeant. Mais maintenant, on va manquer un peu de temps.
Je suis désolée, j'ai pris de la place de ta chronique.
Tu es là pour ça. Mais merci beaucoup, Tessie.
Ben, ça fait plaisir.
Donc, on vous revient tout de suite. Bon, ben c'est pas grave, on est déjà de retour, donc...
C'était rapide, hein? Moi, maintenant, la régie, je fais tout le temps ça, t'sais.
La dernière chronique, mais non la moindre, Alex Bachalani, on manque un petit peu de temps, mais tu vas nous parler très brièvement, de ce qui est incontournable, les élections américaines dans une perspective féministe.
Effectivement, Emilien, demain, le peuple américain va décider de son nouveau président ou nouvelle présidente. Mais au-delà des enjeux politiques traditionnels entourant ces élections... cette fois-ci, on peut vraiment voir des formes de représentation du féminisme au sein de cette course. Comme on est pas mal familier avec le mouvement féministe et l'idéologie en tant que telle, comme on sait qu'il y a eu un certain progrès au fil du temps, même si il reste quand même place à l'amélioration. Mais cette élection, je trouve qu'elle illustre très bien cette situation. En effet, Clinton est l'image du progrès de la femme, tandis que Trump est tout le contraire. Il y a un article du New York Times de Jill Filipovich qui résume bien la situation, selon moi. Elle explique dedans que les femmes ont réussi à évoluer au sein de la société, mais que les hommes sont encore pris dans le passé. Ils veulent pas le laisser... ils ont vraiment un sentiment nostalgique, comme « Ah, le bon vieux temps, que les hommes étaient supérieurs aux femmes ». Il ne veut pas se délaisser de cette idée.
L'émancipation de la femme dérange en quelque sorte.
D'où l'idée vraiment. De Make America Great Again.
Exactement. C'est vraiment ça.
On nie aussi totalement le fait que les Américains et les Américaines ne soient pas encore prêts et prêtes à élire une femme à la présidence. C'est comme. C'est impensable vraiment là, que ce soit un critère pour certaines personnes, ce dont on doute véritablement.
Oui, c'est exactement ce que Trump est en train de faire, justement, comme vous l'avez dit. Il donne l'opportunité aux hommes, et surtout à l'homme blanc, de trouver un refuge familier en votant pour lui, dans lequel les femmes et les minorités ethniques se retrouvent en dessous de lui et n'ont pas au même pied d'égalité. Selon moi, le mouvement féministe ne pourra jamais atteindre son plein potentiel, puisque l'homme, il ne va jamais vous comme, permettre cela. Et c'est le problème, il faut vraiment contrer ça. Puis ça s'explique même en statistiques. Encore une fois, selon l'article de Filipovich, plus de 50% des hommes pensent que Trump respecte les femmes. Puis après le fiasco du vidéo Access Hollywood, ce chiffre a baissé à 40%.
Mais oui.
Donc aujourd'hui, 24 heures avant les élections, il y a quand même 4 hommes sur 10 qui croient que Trump respecte les femmes.
Puis ça en dit long aussi sur la notion de respect en soi.
Mais oui.
Exact, c'est ça justement. Ça fait vraiment penser, selon eux, c'est quoi le respect de la femme.
Ça laisse, ça donne la réflexion.
Donc, oui.
Merci beaucoup à tous d'avoir participé à l'émission. Je veux remercier encore spécialement Judith Lucie d'avoir été avec nous.
Merci de m'avoir reçu.
Donc encore une fois, c'était Emilien Roscano, votre animateur. Nous avions autour de la table beaucoup de personnes. Tessie Jean-Paul, Alex Bachalani, Camilla Rodriguez-Sea, Myriane Bernet et Sarah Thibault. Merci à toutes. Donc on se revoit la semaine prochaine. Je vous laisse maintenant et j'espère que vous allez nous revenir pour une autre émission de La Photomédia.